coin tout en restant chez nous. À bientôt.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Il est 19h, bienvenue à Sainte-Catherine, Saint-Loup. On est en direct dans le studio A du 222 Sainte-Catherine. Oui, oui! Avec la belle gang du Radio House Underground qui viennent tout juste de terminer. On les salue! Yes!
Yes!
Bien assise à côté de moi, ma co-animatrice, Lola Folle du Roi qui ne met jamais d'eau dans son vin parce que ce serait un crime contre l'humanité. Oui, de diluer son sans-serre. Allô, Catherine?
Bonjour. Hey, je me suis ennuyée d'être assise à côté de ma majesté. Là. La semaine dernière, vous avez écouté notre épisode pilote. Cette semaine, on est de retour avec vous en direct.
Bien, on est assez contente cette semaine. Oui, puis en plus, on reçoit la gagnante des Francouvertes 2023. Oui, oui, Jeanne Côté qui nous réserve une belle performance. Le rester jusqu'à la toute fin, ça promet.
On salue notre ami qu'on a rencontré au cégep, Jacob Desjardins, qui a composé la chanson de l'émission, et notre metteur en onde, Clémence Langlois.
Oui. D'ailleurs, on salue nos amis Rosalie Maltais et Michael Renaud. Camille, tu vas aimer ça, parce qu'elles organisent une projection de film qui s'appelle du film documentaire Coromousseau, un documentaire sur des Canadiennes afro-descendantes qui brisent le tabou sur l'excision.
Ouais. Wow. Oui, c'est ce dimanche à 19h. On mettra les liens sur nos réseaux sociaux. Puis là, parlant de réseaux sociaux, on est bien actifs là, ces temps-ci sur Instagram et TikTok. Ouais. Donc, allez jeter un coup d'œil à notre page là, pour des moments marquants de l'émission.
Et là, je me retourne vers les collaborateurs. Là, vous les avez entendus. On pourrait dire que c'est notre bande des 5, mais ce soir, ils sont 3. Allô, la bande des 3!
On a beaucoup de sujets de chroniques sur les femmes ce soir. Là. Après tout, c'est le mois de la femme là, quand même.
Ouais.
Là, c'est,
ah ouais.
Moi, je dis c'est pas vrai que c'est une journée. Là. Moi, je dis que c'est pas juste le 8 mars, c'est tout le mois de mars.
Oui, ça, c'est le fun.
Puis nous, on se demandait, qu'est-ce que vous faites jamais un samedi soir? Quelque
on
chose que vous feriez
toi,
pas.
Toi, Simon.
Moi, j'ai choisi ça vraiment récemment, là, mais je pense que ça serait du sport. Faut pas dire, je suis pas un grand sportif
José
de base,
la vigueur, ne t'as pas entendu.
C'est assez rare que j'en fais de toute manière, mais s'il y avait une journée où j'en ferais vraiment pas, je pense que ça serait vraiment un samedi soir.
Mais c'est vrai, mais t'as pourquoi raison, pas. Mais pourquoi pas? Ben
ouais,
oui.
Pourquoi pas? Mais oui. Là, les femmes dans l'histoire de la philosophie, là, mais là, tu nous fais plus que lire la page Wikipédia ce soir.
Oui, mais c'est ça. J'espère. Non, j'ai fait un petit peu de recherche pour essayer de vous montrer, de poser la question, y en avait-tu des femmes dans l'histoire de la philo?
C'est une bonne
parce
question.
Qu'on les connaît pas vraiment. Puis, je vous vends un peu la mèche. Oui, il y en a, mais on les connaît pas.
Il y en a toujours une à quelque part.
La chose qu'on a.
Et on l'entend juste à côté. Camille Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va tellement bien. Je suis vraiment contente d'être là ce soir.
Oh my God. OK. Qu'est-ce que tu fais pas un samedi soir?
Bien, quand j'ai entendu la question, je me suis dit, je pense que toute ma vie, je me suis dit que le samedi soir, c'était toujours pour faire la fête, pour profiter et pas pour travailler sur son école. Mais force est de constater qu'à un peu plus d'un mois de la remise de mon mémoire, je vais en parler jusqu'à la fin de la saison, là, assumez-le, je serai obligée de rentrer chez moi et de rédiger ce soir pour rendre Carole Clavier, ma directrice de recherche, contente.
Ben oui, et non te déhancher au Ping-Pong Club.
Malheureusement, non. Le Ping-Pong Club, ce sera pour une autre fois. J'ai toute ma vie pour le Ping-Pong Club.
Et ce soir, tu nous parles des Bond Girls.
Ah oui. J'ai revu un film de James Bond, Casino Royale. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous avez le temps de vous remettre ça en tête là, pendant le début de l'émission. Et pour un film de 2006, ça m'a marqué. Donc, je me suis dit, ça mérite un sujet de chronique de parler des représentations des femmes au cinéma et à l'écran. Donc, on va partir là-dessus et se questionner tout le monde ensemble.
Disons qu'il y a des films qui ont mieux vieilli que ce film-là.
On peut dire ça, oui.
C'est qui ça, James Bond, déjà?
Oh, oui, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas James Bond, allez le googler, là.
Oui.
C'est assez.
Ouais. Et toi, Jessica, salut.
Allô.
Toi, qu'est-ce que tu ferais pas un samedi soir?
Ben, je n'écouterais pas un film de James Bond, simplement comme ça.
Et là, tu me parles du sujet dans lequel tu étudies en ce moment, là, la crise des médias.
Ouais, j'ai décidé que j'avais envie de me lâcher là-dessus. Je voulais, tu sais, on dirait qu'on est dans les médias en ce moment, puis on n'en parle pas de la crise comme si elle n'existait pas. Donc, je me suis ouvert le cœur là-dessus. ce soir, plus tard.
Et toi, Lou, qu'est-ce que tu ferais pas un samedi soir?
Je pense que ce serait... Je ferais pas de ménage. Je pense que je ferais pas de ménage.
J'en fais déjà pas à la part.
C'est comme Simon qui dit qu'il fait pas de sport. Dans le fond, c'est pas le samedi soir.
Ouais, mais là, c'est parce que là, c'est quand même plus violent ce qu'elle vient de dire. Ouais, oui, tu me niaises. Oui, non, j'en fais pas de ménage. J'en fais pas de ménage le samedi soir. Franchement, pourquoi je ferais ça le samedi soir? J'ai le dimanche matin.
On peut pas avoir une émission de radio qui en plus faire du ménage.
C'est ça.
Mais non, Dieu sait, Pénélope, elle fait pas son ménage, je suis sûr. Camille, voyons, je t'appelle Camille. Catherine.
Même enfant, même non.
Non, vraiment pas. Catherine, qu'est-ce que tu fais pas un samedi
moi,
soir?
Moi, tout, parce que je suis occupée par la radio. Écoute, je finis de travailler à 17 heures. Je finis de travailler à 17 heures, je soupe, je fais du dernier montage, puis je suis ici, là. Donc, c'est ça mes samedis soirs, moi.
Elle dit qu'elle est plus capable. Ouais. C'est ça.
Je prends les commandes de l'animation quelques instants. Là. Je veux juste vous présenter là, nos fabuleuses, nos talentueuses, celles à qui vous devez toujours une bouteille de vin bio pour passer dans leur cante de porte. Je vous présente...
Hey, arrête ça, Simon, là, c'est pas vrai. De toute façon, on n'a pas le temps pour les éloges. Cette semaine, on a pas mal de choses à dire. Hein, ma Suzanne, ça a brassé dans l'actualité.
Oh mon Dieu, oui, oui, ma Monique. On s'est fait dire qu'on parlait trop vite, là. Fait qu'on n'a pas une minute à perdre, le chrono. Avant toute chose, on tient à vous dire que nous sommes officiellement connus du grand public puisque la semaine passée, on a eu notre premier commentaire haineux sur TikTok!
Là, on sait c'est quoi recevoir la haine, là. Hey, ça fait mal.
Oui.
Ça fait qu'en ce moment, je témoigne, ça doit cesser. Là. Je pense même me réorienter de carrière. Là.
Oui, on s'est fait traiter de communiste en plus. Voyons, c'est vraiment 2012 comme insulte. Là, s'il vous plaît, on n'est pas en grève étudiante.
Ils sont même pas si woke, les communistes.
Non, c'est même pas si woke, les communistes. Puis c'est même pas Gabriel Nadeau-Dubois. Vérifiez vos faits, là. On n'est pas communiste. On est même pire que ça. Ou moins pire, là, c'est à vous de décider.
Ouais, en tout cas.
Vous voyez ça comme ils veulent.
En tout cas, ça, c'était notre grosse actualité de la semaine. Oui. Mais tu sais, il s'est passé tellement d'affaires, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir MSN que je savais déjà que c'est j'allais venir dire.
Ah, oh, ben là, personne n'utilise ça, MSN, ma belle Monique. Mais bon, le monde, on rit à ta joke, mais je pense que c'était par compassion. Là. Bon, on pourrait, on pourrait vous parler de ce que fait là, la une cette semaine, là, le fameux super mardi dans la course présidentielle. Oui, oui, avec Donald Trump qui, selon moi et Monique, trop présent dans le paysage numérique, mais aussi selon les belles dames des Laurentides et de la Mauricie. Vous aussi, vous êtes écœurés, mesdames, de voir sa face orange dans notre écran. Puis moi aussi, parce qu'on dirait qu'on se croirait au orange julep. Ça,
c'est plus. C'est ça. Donc, nous, on vous parle de ce qui se passe dans les autres pages des journaux.
Oui.
Surtout de ce qui se passe dans la section or de la presse, dans les stories Instagram de Martine Delvaux et Kim Lizotte, les publications Instagram des nouvelles séries de Tout.tv ou du magazine D du Devoir.
Oui, parlant de Martine Delvaux, notre féministe en chef au Québec, elle nous a parti un mouvement de société cette semaine avec la publication d'une centaine de témoignages de femmes ayant vécu des violences dans le système de santé.
Et ça a parti le mouvement hashtag MeTooSanté. Là, les hommes, là, je vous vois venir, là, comme je vois mon feu sauvage cette semaine dans mon front. Arrêtez-moi ça tout de suite. Là. Cette conversation ne vous concerne pas.
Non,
d'ailleurs, le Comité fédéral sur la santé des femmes, qui étudie pour la première fois le sujet, est composé, Camille, tu vas aimer ça, de 11 hommes et de une femme. Hey, c'est le fun!
Allô, allô, le Comité fédéral plein de pénis, on vous dérange-tu? Plus de vulves, ça vous tente-tu?
Même pas une deuxième! Hey, voyons, vous me dites si on dérange sur le comité qui nous concerne.
Ben oui, ça fait qu'on va rappeler d'abord une première violence là, dans le monde de la santé. Oui, oui, le père de la gynécologie, James Marion Sims, menait des expérimentations sur des femmes noires, esclaves, et ce, sans anesthésie.
Oui, oui, vous avez bien entendu, là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, évidemment, on disait que les femmes noires ne pouvaient pas ressentir de la douleur. Mmh. Là, vous m'excuserez, mais là, je capote un petit peu,
on ventile. Ça, tout ça, ça a un nom, c'est du sexisme médical. Là, j'imagine que sur TikTok, on va nous traiter de woke, mais ça manque cruellement de vulgarité. Ça fait qu'on avait rapidement des petites suggestions d'insultes. Là. Moi, je commence. OK, les trolls pourraient enfin dire qu'on est juste vraiment des pestes bourgeoises d'extrême gauche.
OK, j'y vais avec la mienne. Il pourrait dire que Momo et Suzy sont juste des buveuses de vin bonnes à rien faire.
Oui, ou encore qu'on est des pseudo-comico-tragico-politico-folles. Mais ce serait pas une insulte parce que c'est vraiment un compliment. Mm-hmm. Ça fait que les trolls, plus d'imagination, de grâce, il y a des noms de restaurants beaucoup plus imaginatifs que les autres.
Mais là, sur une note positive, il y a des petits changements. L'Université de Montréal modifie son curriculum, pas un spéculum. Curriculum. Afin que les symptômes des femmes qui souffrent de problèmes cardiaques soient vus dès la première année au lieu des stages. Ils vont aussi mettre l'accent sur l'écoute et la communication.
La communication? Ben voyons, la communication. On va y aller, moi. On va aider nos consoeurs. Moi, je qualifié, hein. Puis en plus, j'ai étudié ça, la communication. Non, non. Je suis très bonne en description. Moi, là, quand je commande mon cépage, là, le pinot gris, ces temps-ci, je décris tellement bien la chose que le cerveau m'apporte toujours exactement ce que mes papilles gustatives recherchaient.
Ça fait qu'on tombe jamais sur un vin qu'on aime pas.
Non, c'est ça.
On a déjà assez de se faire maltraiter dans le système de santé. On boira quand même pas du vin sucré ou donc une affaire acide, là. Comme j'ai lu dans un magazine, à un moment donné, la vie est trop courte pour boire du mauvais vin.
Oh oui, on connaît ça, la communication. Oui, oui. On connaît ça, la communication. On en fait tous les jours. Regardez, on en fait en ce moment même. Là.
Bonjour!
Après, il faut juste apprendre les notions de la médecine. Là. Puis ça, c'est le bout le moins long. Là. Donc, c'est le bout le plus facile, anyways. Le 3-4, la théorie.
C'est ça, 3-4, les livres, les manuels.
Oui, oui, 3-4, dans l'urgence de Saint-Hippolyte, de Sophie Laurent. Là.
On communique tellement bien qu'on était à ça, là, mais vraiment à ça, là, d'être sur le comité créatif des dernières pubs d'auto de Karine Vanasse. Ben oui, là, Nissa pour Nissan.
Oui, on fera pas semblant de t'être bien déçu. Là. Dans la pub, là, si vous l'avez pas vu, Karine Vanasse se fait pourchasser de manière endiablée par des hélicoptères qui cherchent à faire je sais pas trop quoi. Bon, on va se le dire, c'était peut-être les hélicoptères d'Israël, vu qu'ils aiment ça pourchasser le monde. Là.
Puis on était censé jouer les deux folles sa baguette en arrière oui. pendant que Karine conduisait. Mais ils nous ont coupé après la première prise, faute d'argent. Écoute, je pense qu'on cherche cher, ma Suzanne. Il faudrait baisser notre toit.
Ben, nous autres, on va le dire publiquement, là, on ne sera pas gênés. On est capable de jouer ça, des folles. Mettez-nous dans stat.
Moi aussi, je suis capable d'avaler des chaînes en métal comme Marilyn Jones.
Dans le fond, là, on veut juste que Marie-Andrée Labine écrive un rôle. Allô, Marie!
En tout cas, on ne vous parle pas de ça pour rien. Là. C'est parce que Hugo Meunier, journaliste séchéo. Bagna,
se demandait... des journalistes.
Se demandait si c'était correct pour nos UDA de faire des publicités d'auto en 2024 alors qu'on est, on est en plein changement climatique.
Là, ça clique pas, là. En tout cas, dans l'article, ça communique plus bien, là, laissez-moi vous dire. Pierre-Luc Funk, Mélissa... J'ai dit Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk. Mélissa Desormeaux-Poulin et Karine Vanasse, aucun d'entre eux n'ont répondu à la demande d'entrevue. Ça communique plus bien, bien, hein, vous l'avez dit.
On va se le dire, là. C'est ouais. payant, ces pubs, là. Puis je préfère toujours une Marie-Lou qui promouvoit une voiture électrique qu'un Martin Petit qui essaie de me vendre un PK. Ouais. Même si je trouve ça assez drôle de voir un VUS en pleine nature ou qui longe une rivière, me semble que c'est contradictoire.
Oui,
hein?
Là, on le saurait si une Tesla pouvait nager. T'sais, aux dernières nouvelles, j'en vois pas qui font du backcrawl dans la rivière des Prairies. Mais peut-être que c'est juste moi. Hein?
Je pense qu'ils sont dans le fond de l'eau.
Oui, oh, peut-être bien. Ben, c'est là que ça devrait être de toute façon. Comme va le dire notre invité là, que Catherine et Lou vont recevoir la semaine prochaine, les pubs de voitures, ça devrait plus exister en 2024.
Oh, oui. Vous voulez pas manquer ça? Là? On vous l'a dit, on n'écoute pas ce show. Là, mais non. Je me sauve notre chronique parce que c'est la meilleure.
Ben
mais
oui.
Cette fois-ci, je serai à l'écoute là, avec Catherine Morancy.
Oui, ça fait que Tourlou, la gang, on s'en va digérer la blague raciste de Guillaume le Métivier sur les réseaux sociaux.
Oh, voyons, la gang. On a appris pendant le mois de l'histoire des Noirs. Là. C'était il y a deux semaines. Là. Je suis gênée.
Ben, j'espère qu'il est gêné. Varda Étienne l'a remis à sa place sur Instagram.
Ah oui, bon, Tourlou, la gang.
Oui, en tout cas, Tourlou, là, cette semaine, nous sommes dans l'univers de l'artiste Jeanne Côté, qui est notre invitée de la semaine. Je vous le rappelle, on part donc en chanson tirée de son premier album avec Ouragan.
De retour sur les ondes de Cybèle 101.5, là où le seul ouragan qui se passe, c'est la belle tempête de contenu de notre émission. Oui, oui, on va se lancer des fleurs, là, c'est la mi-saison.
Oui.
Donc, allô Simon, pour ton édito critique cette semaine, tu mets la lumière sur ces femmes philosophes qu'on connaît peu ou pas du tout. Mais là, tu vas avant le 20e siècle, tu vas plus loin que ça, là.
Oui, en fait, parce que ça part du constat un petit peu, un constat niais, là. Le constat que j'avais l'impression que peut-être monsieur, madame, tout le monde pouvait peut-être avoir par rapport aux femmes dans la philosophie. Là, si on connaît un petit peu des femmes philosophes, ce qu'on constate rapidement, c'est que ben, elles émergent principalement au 20e siècle, celles qu'on connaît. Hein. Fait que ce soit Simone de Beauvoir ou Hannah Arendt, par exemple, là, c'est des figures qu'on associe au 20e siècle. Donc, le constat, ben, ça serait... Ben, il n'y a pas de femmes avant le 20e siècle et encore dans le canon de la philosophie.
Mm-hmm. Les hommes n'ont pas le monopole de la pensée, là.
Ben, c'est ça.
Mais en même temps, c'est juste ça que tu te fais présenter, tu finis par le
aussi.
Croire.
Exactement. Fait que la question qui vient avec ça, c'est ben, y a-t-il eu des femmes dans l'histoire de la philosophie? Et si oui, ben, elles sont où? Fait que là, je vais vous nommer des noms puis vous allez me dire si vous avez déjà entendu ça.
Okay.
Hypatie d'Alexandrie?
Non.
Non.
Hildegarde von Bingen?
Non.
Non.
Elisabeth de Bohème?
Oui.
Non.
OK. Elisabeth de Bohème est un peu plus connue. Ce sont toutes des femmes savantes qui ont eu de proche ou de loin un rapport à la philosophie. Or, comme je viens de vous le présenter, on les connaît que très peu. Hein? Puis, comme on le disait, ces femmes sont présentes dans le monde de la philosophie depuis l'Antiquité. Hein? Puis on ne fait que les redécouvrir maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on redécouvre ça? Bien, plusieurs éléments. Premièrement, on a redécouvert un texte de Gilles Ménage. Et là, Gilles Ménage, ça pourrait être quelqu'un qui a écrit ça dans les années 60. C'est un texte publié en 1690, OK? Et qui s'appelle « Histoire des femmes philosophes ».
En français?
En français.
OK.
L'analyse
était plus woke en 1600 qu'aujourd'hui.
Ben, Gilles Ménage, il a été un peu... Il y a une drôle d'histoire en essayant de s'impliquer à différents moments dans la cour de France. Il va un peu se tasser, puis il va se pogner avec Molière. Puis en tout cas, ce qui peut-être explique
il
pourquoi...
Il se pogne avec Molière.
C'est bon name dropping à ton esprit de famille.
Qu'on a un peu oublié qu'il a écrit « Histoire des femmes philosophes ». Puis cette analyse-là est assez intéressante, même s'il est rempli d'angles morts, évidemment. Là, c'est un homme du 17e siècle, là. Mais,
plein d'angles morts.
C'est néanmoins 65 notices biographiques de femmes de l'Antiquité qui ont fait de la philosophie, wow. Qu'on redécouvre avec ça. Puis un projet qui a été associé à cette redécouverte-là, ben c'est en 1987, quand Mary Helen White dirige la publication de History of Woman Philosophers, un recueil massif de 4 tomes qui repart de l'Antiquité puis qui vient jusqu'à son époque contemporaine et qui voit écoute, des dizaines, des centaines de femmes qui ont fait de la philosophie. Donc vraiment un travail monstre. Fait que quand on s'intéresse un petit peu à la philosophie des femmes dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, on apprend, par exemple, dans l'article de Isabelle Koch, professeure de philo en France, « Les femmes philosophes de l'Antiquité », qu'un premier point à noter, c'est qu'on trouve des femmes dans toutes les écoles philosophiques antiques.
Oui.
Fait que ce soit le pythagorisme, l'école épicurienne, les platoniciens, les aristotéliciens, etc., nommez-la, là, toutes les écoles de philosophie antique, on est capable de retrouver des femmes qui, de proche ou de loin, se sont impliquées dans l'enseignement ou l'apprentissage de ces philosophies-là. Leur rôle dans ces philosophies-là sont difficiles à dire. Hein? Le rôle des femmes à l'époque de l'Antiquité, dans la cité grecque, dans la cité romaine, c'est assez trash. Hein? le rôle public, entre autres, est complètement écarté. Et si on redécouvre aujourd'hui qu'il y avait un pouvoir politique pour les femmes, c'était tout le temps dans l'ombre, jamais publiquement. Fait que difficile de dire quel rôle exactement elles jouaient. Mais on a des exemples de positions de pouvoir et d'influence que les femmes pouvaient occuper. Par exemple, le cas d'Hypatie d'Alexandrie, dont je vous parlais, qui était responsable de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie au 5e siècle après Jésus-Christ.
Oh, wow.
Donc, c'était elle, l'enseignante de la place. Donc, quand même quelque chose. Fait qu'on sait que cette place-là, malgré tout, elle est mince, mais elle existe. Et il y a quelque chose de vraiment particulier avec cette place-là, étant donné que... Ben, qu'est-ce qui fait que dans plein de situations de l'Antiquité, les femmes étaient occultées, mais que dans le monde de la philosophie, on découvre finalement qu'elles étaient très présentes? Bien, ça amène à dire à Isabelle Koch, dont je vous ai parlé au début, que selon elle, et là, je vais vous faire la citation, puis on pourra en parler après, là, les écoles et les cercles philosophiques ont occupé dans l'espace social tout au long de l'Antiquité une place qui transgresse la grande division entre le « dedans » et le dehors, ce qui ouvre un espace où le genre n'est pas assignable selon les coordonnées traditionnelles de leur localisation sociale. Hein? En instituant cet espace scolaire qui n'est ni celui de la police, de la cité, ni celui de l'oikos, la maison, la philosophie antique a créé un lieu où les femmes pouvaient occuper une place équivalente à celle des hommes et parfois même une première place. Donc ça, c'est l'analyse d'Isabelle Koch, qui est quand même super intéressante, je pense, parce qu'elle enrichit énormément la lecture de la place des femmes dans l'Antiquité.
Oui, parce que dans le fond, maintenant, quand les femmes se sont battues, c'était pour avoir une place dans l'espace public parce qu'elles étaient reliées à l'espace privé. Mais ce que tu veux dire, c'est que dans la philosophie, l'espace privé était mis de l'avant.
Oui, en quelque sorte.
J'essaie de suivre le cours de philo.
Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre de l'argument d'Isabelle Koch. Mais en fait, aussi, ce qu'elle essaye d'amener, c'est que l'espace philosophique à l'Antiquité, que ce soit l'école, l'académie, telle que Platon et Aristote l'ont créé, puis que c'est perpétué dans plein de traditions philosophiques en Antiquité, c'était pas tout à fait la cité. Et ce n'était pas tout à fait l'espace privé de la maison.
Un entre-deux.
C'est ça.
Que la division n'existait pas autant que maintenant, en fait.
Exactement. Puis, évidemment, ça fait un peu de sens avec ce qu'on sait de Platon, par exemple, particulièrement chez Platon, par rapport à... Il y avait plein de takes de schnout, le Platon, on est d'accord, niveau social, là, on sait, il y a une organisation très, très, très autoritaire chez Platon. Oui. Mais néanmoins, la place des femmes, d'après lui, devrait... Les femmes qui aspirent à être philosophes, à pourrait se placer en haut de la cité. L'éducation des femmes se fait de manière similaire à celle des hommes.
Dans la République?
Oui, exactement, dans la République. Okay, oui. Donc, ce n'est pas complètement nouveau au niveau de l'Antiquité, mais je trouve, en tout cas, je trouve que découvrir ça, ça enrichit énormément la lecture qu'on peut avoir de l'Antiquité là, en général. Puis après ça, on peut se poser la question, au Moyen-Âge, est-ce qu'on assiste à une disparition des femmes en philosophie? Bien, difficile à dire. Hein? L'époque médiévale est quand même complexe au niveau de la philosophie. On le sait, bon, l'idée que c'est un espace sombre, c'est un peu à revoir. Hein? L'époque médiévale n'était pas...
Aussi. C'est ça. Ça arrangeait les gens des Lumières de nommer aussi le Moyen-Âge.
Exactement,
comme un espace où
exactement.
Ah,
c'est vrai.
Donc, c'est pas tout à fait si sombre qu'on peut le penser, le Moyen-Âge, mais c'est une époque qui est très métaphysique. Hein, avec l'avènement du christianisme, la philosophie qui se fait au Moyen-Âge en Europe se fait beaucoup à travers la théologie, à travers des réflexions sur Dieu, à travers la scolastique. Donc, jusqu'à très récemment, la philosophie a quand même été considérée comme un terme parapluie pour désigner le grand domaine des sciences. Fait qu'autant dire que bien souvent, la savante était la philosophe et vice-versa. Hein. Fait que il y avait des savantes, il y avait donc des philosophes. Il y avait des théologiennes qui avaient des discours et des travaux métaphysiques de leur époque qui étaient particulièrement caractérisés par une culture monastique féminine. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand on y avait des abbayes où on avait des moinesses, hein, un terme qu'on n'utilise pas, mais le féminin
c'est beau,
pendant
c'est
longtemps
moinesse.
Des moines, c'était des lieux privilégiés pour le développement des idées nouvelles dans la théologie et dans les sciences qui seraient vraiment par des femmes, pour des femmes. On voit émerger les débuts d'un certain obstétrique. On voit émerger aussi une théologie qui rapporte la femme à l'égalité ou quasiment à l'égalité aux yeux du divin de l'homme. Donc, on a vraiment des idées qui sont quand même particulières pour l'époque. Pour la prof de théologie norvégienne Kari Elisabeth Borrosen, elle voit même dans des travaux théologiques de certaines femmes comme Hildegard von Bingen des arguments et des réflexions qui donnent une place plus forte aux femmes dans la théologie chrétienne. Bien que, il faut quand même le nommer, il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont été, qui sont aujourd'hui des martyrs de l'Église chrétienne parce qu'elles ont été brûlées pour hérésie à l'époque.
Il me semblait aussi qu'il fallait qu'il y ait comme
ça, exactement. Mais pourquoi on les connaît peu, ceux du Moyen-Âge? Bien, moi, j'ai élaboré deux raisons principales. Premièrement, la création des universités. C'est con, hein, mais au Moyen-Âge, avec l'émergence des universités, qu'est-ce que ça fait principalement? C'est que ça exclut les femmes du domaine de la connaissance. Les premières universités du Moyen-Âge n'impliquent pas... Les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'université. Donc, les universités remplacent les abbayes qui les abbayes féminines, la culture monastique féminine. Et l'autre raison, évidemment, ben, c'est comme tout, c'est l'archive. Hein. Il y a des noms aussi connus que Saint-Jérôme et Saint-Augustin qui ont échangé des lettres avec des théologiennes de leur époque, mais l'Église n'a pas conservé aucune des réponses de leurs correspondantes. Donc, on a juste les lettres de Saint-Augustin et Saint-Jérôme, mais pas nécessairement les lettres des théologiennes.
Mais ils ne se parlaient pas tout seuls, ces gens-là. Là.
Exactement, exactement. D'ailleurs, parlant d'archives, connaissez-vous le terme « philosophus »
Oui.
C'est un terme, un ancien terme qui était utilisé pour parler d'une philosophe. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce qu'à l'époque moderne, ce qui a vraiment changé la donne pour la conservation des écrits philosophiques écrits par des femmes, c'est probablement la façon dont une gymnastique linguistique s'est instaurée, particulièrement dans la langue française, de par l'Académie française. Hein. En fait, l'historienne de littérature Eliane Viennot nous apprend dans un livre qu'elle a dirigé, l'Académie contre la langue française, qu'au 17e siècle, il y a un abandon des mots féminins pour témoigner de la plupart des carrières de femmes dans le domaine des lettres. Hein. Le mot autrice, poétesse et philosophesse, ce sont tous des termes qui sont abandonnés.
Tout récemment.
Exactement.
Oui,
exactement.
Puis avec son lot de réactions, justement, ces mots-là viennent. Et par exemple, on dit en France qu'on triture la langue, alors que...
Ouais.
Il utilise encore Madame le maire, là, donc on s'entend qu'on est pas la même
chose. Oui,
exactement.
C'est vrai.
Fait que, historiquement, donc, on voit que la langue française, d'une manière assez structurelle, va mettre les femmes à l'écart du domaine philosophique dès le 16e siècle. Hein. Donc, il faut quand même néanmoins remettre en contexte la philosophie à l'époque moderne, parce qu'il y en a de la philosophie écrite par les femmes à l'époque moderne. Les femmes qui ont philosophé durant cette période sont bien sûr reléguées à ne pas en avoir le titre, comme je vous l'ai dit, mais on va reconnaître quand même les femmes de lettres, hein, ce nouveau terme un petit peu qui vient pour toutes les femmes de l'aristocratie qui vont témoigner d'érudition. Mais à part de ça, on ne va pas déterminer précisément qu'elles font de la philosophie. Donc, à l'époque, la philosophie s'écrit principalement sous la forme de traités. Hein? Puis donc, n'ayant pas accès à l'édition ou à la publication, les femmes qui font de la philosophie ne peuvent pas écrire des traités, ce qui tasse énormément l'écriture philosophique qu'elles font. Mais on retrouve quand même la philosophie des femmes dans des échanges de lettres. Donnez un exemple, vous êtes une femme de lettres au 16e siècle, vous aimeriez réfléchir philo avec des gens, mais malheureusement, à part le savant de la cour de votre père, qui a peut-être une fois lu Aristote 20 ans plus tôt, il n'y a personne qui peut vraiment parler de philo avec vous. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous slidez dans les DM de René Descartes. C'est le cas d'Élisabeth de Bohème, aristocrate autodidacte qui va entretenir une correspondance avec des hommes de lettres, dont la plus connue est celle avec Descartes. Ce qui est malaisant un petit peu là-dedans, c'est que pendant longtemps, on a considéré Élisabeth de Bohème ne pas avoir de théorie philosophique qui lui est propre, parce qu'on la lisait uniquement à travers la relation épistolaire qu'elle avait avec Descartes. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, puis c'est que elle est très confrontante par rapport à Descartes. Elle a une philosophie qui lui est propre puis qu'elle essaye d'opposer à Descartes.
Et en terminant? Okay.
Ben, en terminant, j'avais...
C'est ça, exactement.
Tant de choses que je n'ai pas dit, tant de noms que je n'ai pas nommés, hein, c'est très, très large. C'est pour vous présenter à quel point, bon, les femmes ont fait de la philosophie et elles existent. Donc, pour plus d'infos, allez sur le site Internet du Centre pour l'histoire des femmes philosophes et scientifiques de l'Université de Paderborn en Allemagne. C'est très, très, très fort, la recherche qu'ils ont fait.
Et on va mettre les liens sur nos réseaux sociaux. Après cette courte pause, on vous revient et on parle avec Camille des Bond Girls.
Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie Douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie Douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 101.5.
Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
La girafe en bleuse. Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons.
Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon.
Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 h, en rediffusion mercredi 14 h à CIBL.
CIBL 105, Montréal.
De retour à Sainte-Catherine-Saint-Loup, le concurrent principal du show de Pierre Brossard, mais on s'entend que notre show est peut-être un peu meilleur. Entre autres parce que Pierre Brossard n'a pas cette fabuleuse chroniqueuse Camille Sébastien.
Mais voyons donc, je me fais comparer à Pierre Brossard aujourd'hui.
Ah oui, ben, il est drôle, mais toi aussi t'es bonne.
Mais oui, mais je sais, mais là, je veux dire, j'ai pas tout le rouage, toutes les années de métier, là.
Ben,
en tout cas, on se lancera pas là-dedans.
Non, alors,
bonjour à vous tous et toutes. Je vous explique, dans le fond, comment s'est passée la création de ma chronique. En fait, tout a commencé quand j'ai revu Casino Royale, film de 2006, et le premier James Bond mettant en vedette Daniel Craig. Je sais apprécier d'ailleurs que Daniel Craig n'avait pas été choisi au départ. Bien, en fait, il y a eu beaucoup de critiques au départ par rapport au fait qu'il allait être le nouveau James Bond parce que les gens ne le trouvaient pas assez masculin et viril.
Oh mon Dieu!
En tout cas,
une autre affaire.
On se met en scène, on pense à comment j'étais. On commence à réécoute de ce film. Je ne m'attends évidemment pas à une révolution féministe, mais aussi de manière un peu naïve en pensant que ça ne peut pas être si pire que ça. J'ai pas vraiment de souvenir que ça soit si pire que ça, t'sais. Mais semble que je trouvais ça cool, moi aussi, James Bond, quand j'étais ado. Donc, le film commence, plein de doutes qui jasent, des grandes poursuites, des batailles, des tirs de fusil, et finalement, après une vingtaine de minutes, la première interaction de James Bond avec une jeune femme. Mm. La femme du premier méchant, Solange Dimitrio, jouée par Katharina Morino. Là, je vous laisse écouter la première interaction qu'ils ont eue.
No wonder he was in such a foul mood. My mistake.
Can I give you a lift home?
That would really send him over the edge. I'm afraid I'm not that cruel.
Well, perhaps you just had a practice.
Perhaps.
What about a drink at my place?
Your place? Is it close?
Mm. Very.
Donc là, ce qu'on a entendu, en fait, c'est une interaction où ils se rencontrent, les deux personnages, pour la première fois.
Mm-hmm.
Il l'invite à lui faire un lift. Elle dit non parce qu'elle est mariée, donc à un autre homme qui est un méchant qu'on a rencontré un peu plus tôt dans le film. Mm-hmm. Et il lui dit, t'es pas si méchante que ça, mais peut-être que tu manques juste de pratique pour être aussi méchante. Peut-être que ça fait juste longtemps que tu l'as vécu.
Oh,
et elle le regarde d'un regard comme si elle avait été convaincue qu'à ce point-là, finalement, elle était en amour avec lui.
Mm-hmm.
Et là, elle lui dit, maybe, peut-être. Et là, il lui dit, alors, on va prendre un verre chez moi. Et d'une seconde à l'autre, elle a commencé en disant, il n'y a aucune chance qu'on aille prendre que tu me reconduis mm-hmm. chez moi. Et d'une seconde à l'autre, elle veut aller prendre un verre avec lui.
Ouais.
La scène coupe. Et la scène d'après, on va l'écouter encore. Elle est ah oui, je vous juste vous mets en scène. Elle est couchée par-dessus lui, sont en train de s'embrasser. OK.
Okay. Mm-hmm.
No wonder he was in such a foul mood.
Oh non, c'est le premier. On va juste remettre le deuxième extrait parce que là, le premier extrait, on l'a déjà entendu.
That would...
Clémence nous repart ça, là. Ah, okay, oui, Clémence va nous repartir ça dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la scène?
Ce qui va se passer, c'est qu'elle est couchée par-dessus lui et elle lui dit « Ah ouais, t'aimes vraiment les femmes mariées, toi, James Bond? » Puis là, il a dit « Comment ça? » Puis là, il lui répond quelque chose comme « C'est vraiment plus facile, en fait, les femmes mariées. Il y a moins de problèmes avec les femmes mariées qu'avec les autres femmes parce qu'elles sont déjà attachées à quelqu'un d'autre. » On va l'écouter.
Oui.
Mm, you like married women, don't you, James?
That keeps them simple.
What is it about bad men? You, my husband. I had so many chances to be happy. So many nice guys. Why can't nice guys be more like you?
Attendez, c'est pas terminé.
Yeah.
Ah bon, c'est parti.
But so much more interesting.
Mm. What makes your husband a bad man?
J'ai l'impression qu'on passe de la porno.
Oui, je sais! Mais je vous jure qu'ils sont habillés pendant cette scène-là pour les parents à la maison.
I'm afraid. I'm also afraid you will sleep with me in order to get to him.
How afraid?
Not enough to stop.
Donc, OK, là, ce qu'on vient d'entendre, dans le fond, avec tous les bruits de moaning et genre toutes les grandes respirations, en fait, ce qui est important à retenir dans cette scène-là, c'est qu'elle lui parle d'être une femme mariée, de comment c'est, est-ce que lui aime autant les femmes mariées, il trouve ça plus simple parce qu'il n'a pas envie de s'attacher. Et elle lui dit juste après, comment ça, j'arrive pas à aimer des bons gars? Si seulement je peux aimer des bons gars, il y a tellement de gars qui ont essayé de me rendre heureuse, mais les bons gars, c'est plate. Donc, ça remet en place le stéréotype.
Le bad boy.
L'idée que le bad boy est ce qui attire les femmes. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas des gars qui se disent entre eux que les femmes sont attirées par des bad boys, c'est des hommes qui ont écrit un scénario dans lequel ils ont pris la décision de faire dire à un personnage féminin qu'elle aime les bad boys. Donc, on vient comme renforcer, en fait, cette idée-là que les femmes le pensent aussi, alors que pas nécessairement. T'sais, ben, là, on
qu'est-ce que ces scénaristes peuvent en savoir?
Exact. Ouais. Et juste après, elle lui dit elle-même, j'ai peur que tu sois avec moi juste pour pouvoir atteindre mon mari qui est le méchant du film, ben, un des méchants du film. Et elle lui dit à quel point t'as peur? Et elle lui dit pas assez pour arrêter. Comme si son désir de coucher avec James Bond était si grand que le fait de se faire manipuler serait pas si pire, finalement.
Tout d'un coup, son mariage est terminé.
C'est ça. Exact. Oui, oui. Mais premièrement, son mariage est terminé, mais aussi que l'homme avec qui elle est en train de coucher se fout d'elle.
Ouais.
C'est même pas une préoccupation parce qu'en fait, il lui a tellement bien parlé puis il l'a tellement séduite que c'est un rêve, là, de... Puis tu sais, à go down on him, c'est-à-dire qu'on va pour prendre...
Pour lui faire une fellation?
Pour lui faire une fellation, tu sais, comme si c'était ça la chose la plus attirante dans la vie. Donc, on partira un peu sur ça. Donc, la première chose que je me suis dit en voyant...
On n'a pas prévenu les parents que c'était une chronique un petit peu PG-13, mais c'est pas grave.
Écoute. Mais en même temps, les films de James Bond sont relativement général, mais genre pour tout le monde, et il y a quand même ça qui se passe dedans. Donc, la première chose que je me suis dit, c'est quel petit gars de 12 ans a écrit ce dialogue? qui est-ce qui fait dire des choses pareilles à des femmes? Bon, alerte au divulgateur, il faut savoir que quand Bond quitte la chambre pour aller assassiner le mari de la femme avec qui il s'en allait coucher, elle, quand il va revenir... OK, c'était pas clair. Il s'en va de la chambre, il va tuer son mari.
Oui.
Et quand il revient à l'hôtel le lendemain, sa femme, la femme, elle est morte. Et James Bond la voit, il s'en fout parce que, dans le fond, il s'en fout que les femmes meurent parce que des féminicides, c'est pas très grave. Donc, observez de mon œil d'adulte, cette scène m'a vraiment fait réfléchir à la représentation des femmes au cinéma et tout particulièrement dans James Bond. D'abord, rappelons l'importance dans le système patriarcal d'avoir des femmes objets et des hommes sujets. On a déjà traité de ce sujet-là à l'émission. J'en ai parlé sur différents
ondes. On s'en souvient, la gang.
Ouais, hein, on kiffe.
On s'en dictionnaire.
Je vous rappelle, je vous aborde, on va aborder en fait ensemble un nouveau concept qui est le concept de l'agentivité. Youpi!
Yeah!
Okay. OK, alors, d'abord, la définition scientifique théorique de l'agentivité, c'est une traduction directe de l'anglais agency, qui est souvent utilisée dans des théories critiques et féministes pour parler de la capacité d'agir et de prendre des décisions. En d'autres mots, c'est le contrôle exercé par des sujets sur leur propre fonctionnement, sur leur conduite et leur environnement.
Et quand on dit sujet, c'est que ça en fait la différence vraiment avec un corps-objet, là.
Oui, exactement. C'est vraiment une personne qui est agentive. Donc, tous les humains auraient de base, si on y réfléchit, de l'agentivité, une capacité de prendre des décisions.
Et une subjectivité.
Et une subjectivité, oui. Exact.
Okay.
Alors, si on décortique la scène, les problèmes. De base, on peut se demander à quel point elle veut coucher avec lui, même s'il la manipule, comme on en parlait plus tôt. Ça donne un peu l'impression que si les bons mots sont prononcés, entre guillemets, on peut convaincre une femme de n'importe quoi. Elle est tout à fait malléable, et cette scène renforce l'idée qu'un non peut toujours être transformé en un oui. Si on est bien habillé, si on parle de la bonne manière, si on dit les bonnes choses, si on le fait de manière assurée. Puis, ça montre vraiment l'enjeu de l'agentivité, parce que la personne qui, au départ, disait non de manière assurée et qui refusait quelque chose, une seconde plus tard, dans la scène, est montrée comme quelqu'un qui peut être convaincu de dire oui.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un classique dans les relations hétérosexuelles qu'on peut voir dans les films. Et ça me fait penser à un film très connu aussi qui s'appelle Blade Runner, que vous avez peut-être vu, pas le nouveau là, de Denis Villeneuve, mais l'ancien Blade Runner. Il y a une scène dedans où Rachel et Deckard vont être ensemble. Deckard l'embrasse. Elle dit non plusieurs fois de suite. Et ensuite, il continue de l'embrasser. Et finalement, elle est comme, oh mon Dieu, j'attendais juste que tu le fasses comme assez pour que j'aie le droit. comme si les femmes se devaient...
Le consentement, c'est pas comme ça non, que ça marche.
Non, exact. Puis c'est comme si les femmes, en fait, elles ont pas d'agentivité. Elles se font juste convaincre d'avoir des relations sexuelles en tout temps.
Ouais.
Puis c'est ça qui est problématique, en fait, dans le film. C'est aussi d'autant plus intéressant parce que le non du départ peut être perçu comme une mise en place d'un sujet, justement. Elle dit non, elle prend des décisions, mais ensuite, elle se fait convaincre qu'elle peut dire oui, puis on l'a entendu, là, ça a pris 10 secondes dans le dialogue qu'on a entendu, elle disait non, elle dit oui 10 secondes plus tard, elle se retrouve dans sa chambre, la scène d'après, ils sont un par-dessus l'autre, puis ils font des bruits là, qu'on a tous entendus ensemble. en plus, dans les scénarios, les deux sont, ses deux seuls rôles, en fait, à la femme, c'est d'être belle, parce qu'on va la filmer de manière avec le male gaze, là, qui n'est pas un terme qu'on aura le temps d'aborder aujourd'hui.
En plus, tu sais, Nelly Arcand, dans, oui. dans Burkhardtcher, dit exactement cette phrase-là, parce, qu'une parce que d'être une femme, c'est d'être belle.
Mais exact, et d'être regardée, et ensuite de se rendre méchant, et ensuite de mourir, parce que les Bond Girls et toutes les femmes dans les films de James Bond meurent constamment, mm-hmm. et c'est pas mm-hmm. vraiment un problème. Mm-hmm. C'est comme pas vu comme un enjeu. Et là, ce qu'on se dit, en fait, c'est James Bond, mon ami me disait cette semaine, c'est supposé être une parodie de livres d'espionnage et de représentation des espions. Ce qui pourrait, d'une certaine manière, nous donner l'impression que l'on peut excuser les comportements misogynes de James Bond parce que ça ferait partie de, sa, de la caricature, si on veut. Qu'effectivement, ce dialogue n'a pas vraiment de sens puis que tout le monde s'en rend compte. Ouais, comme, mm-hmm. comme si tout le monde à la maison avait écouté ce dialogue et s'était dit « Ben voyons donc! » Mais, malheureusement, je pense que non. Je pense que pour les jeunes garçons et les jeunes filles, ces représentations de relations hétérosexuelles sont bien réelles et servent de modèle à la construction de ce que nous considérons comme des rapports normaux entre les hommes et les femmes.
Comme le loup de Wall Street exact. Aussi, là, qui est souvent pris au premier niveau. Mais
exact, contre. Et qui est adoré par plusieurs hommes alors qu'il est supposé représenter un homme dégueulasse. Donc, il faut faire attention. Je ne pense pas qu'on est si loin dans notre féminisme pour comprendre aussi facilement des caricatures de ce genre et de rire de femmes qui ne sont pas capables de prendre une décision. C'est comme si en faisant dire ces mots au seul personnage féminin représenté en James Bond, on donne l'impression où on représente toutes les femmes de cet univers comme des objets de désir. On le sait tous, la culture populaire a évidemment un impact énorme sur notre construction sociale et c'est pour ça qu'il est hors de question de prendre à la légère des scènes et des représentations féminines qui encouragent la culture du viol et l'objectification des femmes. On se retrouve la semaine prochaine pour oui. un nouveau concept féministe. Yes.
tu vois, ça, je prendrais une partie 2, comme la chronique à Simon. Ben oui,
c'est ça. Mais à la fin de la saison, on fera un dictionnaire féministe de Camille ben Sébastien. Ah, oui. wow.
Merci, Camille. On reste dans l'univers de Jeanne Côté. On part avec Il peut mouiller. On vous revient tout de suite après avec Jessica.
Jusqu'au canal de Chine, l'air est pesant, le temps solide me passe dedans. comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage, courir comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage, courir comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage, courir comme un chien fou avec le courant du canal.
Sur les ondes de Civil 105 avec Jessica Saint-Germain, étudiante en télé qui nous fait son ode à la crise des médias.
Ouais, ouais. On m'a souvent dit, Jessica, c'est quoi les débouchés après ton bac? La télé, c'est mort, il n'y a pas d'avenir. Vous entrez dans un domaine en guerre. Ces phrases-là, ben ouais, je les entends par des amis, de la famille, des profs même. Je les entends tous les jours depuis un peu plus d'un an. La fameuse crise des médias, elle est omniprésente dans ma vie. Et pour ceux qui hibernaient là, ou qui croient encore que l'avenir est dans les pâtes et papiers, ben voici un résumé là, de ce qui se passe.
C'est bon.
Ouais. Merci. Il se passe qu'en 2024, on subit les mauvaises décisions, ou plutôt l'absence de décisions par les acteurs gouvernementaux et les acteurs du domaine des médias. Il y a de ça plus de 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, on était encore au début de l'Internet. Mais c'était déjà assez gros pour prévoir que ça allait changer bien des affaires dans le domaine des communications. En 1999, on a même décidé que les diffuseurs Internet seraient exemptés des règles mises en place par le CRTC pour le contenu canadien. Et ben, c'est en 2022-2023 qu'on s'est dit, ouais, faudrait peut-être qu'on change ça, hein, parce que ben, on est en train de se tirer dans le pied. Sauf que la balle est déjà partie, puis là, on est en train d'essayer de réparer les pots cassés. Ça fait que les géants de la télé, de l'Internet, des communications en général sont en train de rire de nous pendant qu'on se défend de travailler dans le domaine par passion. Bon, la passion, ça peut faire avancer bien des choses, mais je me vois mal arriver aux caisses de l'épicerie avec bien de la passion, mais rien pour payer. Bref, ouais. C'est plus gros, c'est plus complexe que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la crise des médias. Puis ensemble, j'ai envie qu'on imagine un monde sans médias. Hein?
Très bel exercice. Faisons-le.
Ben oui, pas de chronique de Richard Martineau ou de Sophie Durocher sur lesquelles on peut chialer à notre pause
ça,
café.
Je dis pas non pour bon, celle-là.
J'avoue. Mais imagine un matin de semaine sans Gino Chouinard. Oh. Je sais quoi, ça va arriver, là. Faut pas s'en cacher. Mais non, c'est ça. Pas de changement de poste durant un long road trip quand la radio commence à gricher puis que ça change de zone d'antenne.
Ou
là,
la musique est plus bonne.
Bon, des bon. Fois, ça arrive. Ça arrive aussi, là. Pas d'horoscope dans le journal qui dit que ben, si c'est la bonne journée pour tomber en amour ou si tu dois juste te concentrer sur toi un peu aujourd'hui.
Comment je vais savoir, là?
Exactement. Mais surtout, grand sacrilège, pas de médias veut aussi dire pas de Au secours de Béatrice.
Oh, mon...
T'es obsédée, Jessica, t'es comme moi.
Mais Jessica, oh, merci de dire ça. Merci de le dire sur les ondes publiques.
Oui, non, mais c'est ça, là. C'est tout.
Mais c'est parce qu'on se le disait, on a du temps, là, fait qu'on peut en parler. Ouais. On se le disait en privé que Au secours de Béatrice est une série tellement moderne qu'on pourrait passer sans modification aujourd'hui en 2024, puis ça aurait des impacts inimaginables.
Complètement.
Moi, je stand by that.
Puis j'en reviens pas qu'on ait passé ça en ondes, puis que les choses n'ont pas changé.
Non, mais c'est ça. Puis en plus, j'ai entendu dire, je lisais tantôt là-dessus pendant qu'on répétait, puis en plus, apparemment, avec le diffuseur, c'était compliqué de mettre ce show-là à l'écran parce qu'on présentait une femme anxieuse à l'écran. En tout cas,
Camille, on travaillait pendant 7 ans en pré-production pour
ouais,
ce show-là.
En tout cas.
Bref.
C'était notre moment au secours de Béatrice.
Oui, il fallait.
Il y en a fois par semaine.
Oui.
Ça, puis une critique d'Israël.
Oui, puis bien sûr, une critique d'Israël, franchement.
Un vin biologique.
Un monde sans médias, c'est une population moins informée, c'est c'est un pouvoir de s'exprimer qu'on perd. Il y a 6 ans, quand j'ai terminé ma technique en radio, on m'a conseillé d'aller travailler en région, hein, parce que c'est là que tout le monde commence, puis après, ben, tu te rapproches des grands centres tranquillement. Ben, la réalité aujourd'hui est pas mal différente. Les jobs en région sont de moins en moins nombreuses parce que les médias régionaux sont au bout de leurs ressources puis réussissent à peine à sortir la tête de l'eau. La réalité, c'est que si tu t'appelles Véro, Patrice Roy ou même Hugo Dumas, t'as sûrement pas peur de perdre ta job. Mmh. Mais si t'es l'animatrice qui jase en ondes à Rimouski juste avant les Fantastiques, ou celui qui s'occupe des réseaux sociaux d'un journal à Thetford, ou même ben, une recherchiste qui travaille sur un gros show télé... Mmh. Ben, toi, t'es sûrement stressé, puis tu te tiens au courant de toutes les rumeurs puis les oui-dire sur le fait que, ben, il y a des coupures qui s'en viennent. Puis t'attends. Parce qu'on sait pas, peut-être que toi, ben, tu vas être le chanceux ou la chanceuse qui va pas perdre sa job. Avec les coupures chez Bell, chez Cogeco, même chez Radio-Canada, je suis en train de me dire, le futur des médias, ben, il est peut-être dans le communautaire. Hein? La chose qu'on a toutes en commun ici, là, autour de la table, ben, c'est la passion, l'envie de partager, de faire avancer les choses puis d'avoir une tribune pour le faire. Quand j'entends qu'étudier dans les médias, c'est peine perdue parce que nos métiers sont portés à disparaître, ben ça me fâche et c'est pour ça que je parle aujourd'hui d'ailleurs, parce que je peux pas croire qu'en 2024, on n'a pas encore compris le sens de l'évolution. Dans 5 ans, la télé sera plus la même. Y aura-t-il encore des chaînes câblées? Est-ce que Netflix va être aussi gros plus ou même plus rien du tout? Ben ça se peut aussi. On commence à comprendre enfin qu'on doit brasser les cartes un peu, faire honneur aux talents qu'on a au Québec, au Canada. Je sais que je ferai pas de la magie ce soir-là en disant que je veux que ça bouge, là. Puis que l'argent, ben ça pousse pas dans les arbres, là. Mais je suis contente qu'on commence à se rendre compte que c'est important de prendre soin de nos médias. Mais qu'est-ce qui fait que moi, à 26 ans, les pieds dans le domaine depuis 6 ans, mais complètement, pas complètement ancrée encore, puis ben qu'est-ce qui fait que je tiens encore la corde qui me rattache au bateau puis que je fais tout pour arriver à embarquer dessus avant qu'il coule. Ben ça, c'est le goût de créer. La télé, c'est mort, on m'a dit. Ben, si je te dis qu'en ce moment, il y a des jeunes qui attendent juste de finir leurs études pour pouvoir faire de nouvelles séries web. Si je te dis que ces mêmes étudiants-là sont présentement en train de bâtir leur portfolio en créant des projets de fiction, de studio, de documentaires pour pouvoir dire à leur famille que leur programme, ben, il ne sert pas à rien. c'est notre réalité, oui. Il y a 10 ans, on n'avait jamais entendu le mot de créateur de contenu. Puis aujourd'hui, ben, il y a pas mal de monde qui gagne leur vie avec
puis
ça.
Association aussi d'influenceurs.
Oui, complètement. Tu sais, il y a des jobs qui se créent, il y en a qui se perdent dans l'univers, mm-hmm. et c'est comme ça, l'évolution. La télé, comme les autres médias, va se renouveler, je ne sais pas comment, mais il y a un changement qui opère en ce moment même. Puis oui, on est en crise, oui, c'est rough, puis ça me stresse de sortir de l'école dans 1 an, puis de me dire que je risque d'avoir bien de la misère à trouver une job. Mais je suis tannée d'entendre dire qu'on n'a pas d'avenir là-dedans. Il y a du beau dans ce qu'on fait au Québec, puis il faut le souligner. Il y a d'ailleurs présentement de nombreuses séries qui existent qui sont en développement ailleurs dans le monde, qui proviennent de chez nous. Les producteurs, les diffuseurs, ils se battent pour faire parler de nous ailleurs, puis
oui,
ça
il y a
marche.
Il y a une série qui, dans 2-3 semaines, là, il y a 3 séries québécoises qui vont...
Exactement, là, qui vont être présentées. Une canadienne également. Bon, on parle entre autres de nombreuses séries complètement lissées du côté de la qui a été achetée par la France. C'est comme ça que je t'aime, vendue aux États-Unis, en Israël, en France, en Espagne, en Allemagne. Plan B également, Audrey est revenu. Ce sont tous des séries qui ont été achetées par d'autres pays parce que ce qu'on fait au Québec, c'est bon. Ça
même
pogne
Zénith
ailleurs.
Zénith aussi.
Oui, Zénith.
Zénith récemment.
Ouais. J'ai nommé surtout des séries là, de fiction. Ouais. Là, mais les formats qu'on fait en studio, c'est vendu ailleurs aussi. Faut avoir confiance à ce qu'on fait au Québec. Puis il est peut-être là le futur de la télé aussi. Bon, là, je suis vraiment très concentrée sur la télé, là, mais les médias en général. On dirait que j'essaie de convaincre les gens qui nous écoutent, la population en général, que les médias sont importants. Mais les premiers à convaincre, ce sont les différents paliers de gouvernement qui disent que, qu'ils font tout pour faire avancer les choses. Mais c'est aussi les mêmes qui vont mettre plus d'argent en publicité dans une radio à Montréal que dans une radio en région pour une question de population. Oui, je sais, il y a plus de monde à Montréal qu'en région, mais donner peu d'argent aux radios et aux journaux régionaux, c'est aussi dire que c'est moins important, puis ça, c'est tout sauf vrai. J'ai de la misère à croire qu'en 2020, on faisait partie des services essentiels, puis qu'aujourd'hui, on ne met pas autant d'efforts pour nous garder en vie.
Oui, mais même les services essentiels en ce moment, la santé, ils nous font sentir mal dans le budget. On a mis plus d'argent pour la santé. Là, regardez qu'est-ce que ça fait, un déficit.
Ah, mais je...
Franchement, Éric Girard.
Franchement.
Je me lâche.
Lâche-toi. Là.
Il y a bien des franchements qui se perdent. Oui, oui, oui.
Puis, je trouve ça dur de défendre un domaine qui a été longtemps critiqué, qui fait pas ben, en fait, qui fait jamais l'unanimité, le domaine des médias, ouais. Mais qui a toujours fait preuve d'inventivité, j'ai envie de dire.
Et qui rassemble, moi
oui, aussi. Qui rassemble. C'est ça qui est important aussi dans les médias. Puis c'est drôle à dire, aujourd'hui, j'ai eu de la difficulté à vous dire pourquoi c'est le sujet que j'ai choisi. Je le disais avant d'arriver à la station, je me sentais imposteur parce qu'il y a tellement de contrastes. Le talent versus l'argent, les choix gouvernementaux contre les géants du web, les gens qui veulent entrer dans le domaine, puis ceux qui font tout pour y rester. Fait que je me dis qu'aujourd'hui, mon message, bon, j'ai peut-être conscientisé une personne à comprendre la réalité du milieu, puis peut-être aussi que je vais amener des discussions entre amis sur la manière dont ils consomment les différents médias. Mais je souhaite simplement qu'on soit conscient que cette crise-là, ben, nous touche tous un peu d'une manière ou d'une autre, qu'on ait conscience que les GAFAM, les Netflix, Disney+, etc., sont une grosse partie du problème, mais que les dirigeants des grands médias canadiens et québécois et les gouvernements peuvent faire un effort aussi. Puis là, ben, je tiens à remercier, en terminant, bon, on dirait que je fais un gros laïus, des remerciements, etc. Mais...
La force, c'est que Jessica ne revient pas à l'émission.
Non, Jessica a gagné un Gémeaux.
Un Gémeaux, c'est ça, exactement. Non, mais je tiens à remercier les gens qui se battent, ceux qui se disent que oui, il y a un futur pour les médias au Québec, mais tous ceux qui sont à la table en ce moment, en studio, CIBL aussi qui soutient des jeunes qui ont soif de communiquer, parce que reste qu'on a quand même décidé de partir un show en janvier 2024 en plein cœur de la crise des médias, puis qu'on se pointe chaque semaine pour donner tout ce qu'on a, puis qu'on fait ça par pur plaisir, parce que c'est ça, en fait, qui rallie tous les gens qui œuvrent dans les médias, c'est le plaisir qu'on a d'informer, de communiquer, tout simplement.
Oh, wow! Hey, mais bravo, Jessica!
Wow!
Je m'attendais pas à me faire applaudir, en fait. Là, moi, je voulais passer le message que je suis fâchée, là. C'est ça, exactement.
T'es fâchée, mais t'es pleine d'espoir. C'est le
oui,
fun, quand
oui,
même.
Oui, c'est exactement. Ça, parce que c'est ça qui va nous garder en vie. Les médias, oui. C'est l'espoir. Là.
Je veux dire, c'est pareil.
Clairement, d'ailleurs,
c'est le problème, c'est le système capitaliste. Okay, moi, c'est mon rappel.
Mais Monique et Suzanne le disent aussi, le mot.
C'est la base de tout.
C'est la base, ouais.
D'ailleurs, c'est une discussion qu'on va avoir avec Philippe Lacroix la semaine prochaine. Dans deux semaines, ouais. Désolée. Auteur et recherchiste en télé pour parler pendant 30 minutes de justement la crise des médias. Merci, Jessica. Restez pas loin. Après cette courte pause, notre invité de la semaine est avec nous, Jeanne Côté.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10h sur CIBL-FM. Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Belgique, les dimanches 18h, en rediffusion les mercredis 11h sur les ondes de CIBL 101.5.
Un bail, peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éduquer la loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
Vivre Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
Elle est avec nous en studio, notre invitée de la semaine, Jeanne Côté, Jingle. Jeanne Côté. Qui est-elle? D'abord, elle est gaspésienne, naissant à Petite-Vallée, village côtier de Gaspésie, qui accueille l'immensément populaire festival de musique fin juin. Ensuite, elle est musicienne, auteure, compositrice, interprète, métier par lequel elle rentre à travers la littérature et par la nature, entre autres. Toute jeune, elle est face à l'océan, entourée de mots, et elle se rend même jusqu'à la maîtrise, qu'elle ne termine pas, mais elle laisse la porte ouverte.
D'abord, Jeanne Côté nous fait découvrir son univers à travers Aller-Retour, son premier EP. Parallèlement, elle tente les Francouvertes, un festival de musique qui propulse les carrières. Après 7 ans de tentatives, elle se rend jusqu'en finale du concours et le gagne fièrement il y a de cela seulement un an, presque jour pour jour. En 2023, c'est aussi la sortie de sa première œuvre complète, Suite pour personne. En fin d'entrevue, elle nous interprétera Suite pour personne, la chanson, et on ne pourrait être plus content de la recevoir à l'émission. Bienvenue à Sainte-Catherine Saint-Loup,
mais
Jeanne!
Mais quelle belle présentation! Merci!
Allô. Ça nous fait plaisir! Allô! Oh, oui. Ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super.
Vraiment. On a essayé de te présenter dans l'introduction le mieux qu'on pouvait, mais on voulait savoir, on demande cette question-là à tous nos invités. On oublie la géographie, là. Tu viens d'où?
Oh! Ça commence deep!
Oui.
Je pense qu'au-delà de la région, justement, mais je viens d'une famille passionnée par la culture, en général, puis que c'est ça qui a un peu forgé mon identité, puis ma curiosité aussi, ma volonté de creuser dans les choses, puis d'aller loin, finalement, dans ma recherche, puis dans ma création.
Ah, wow!
Voilà.
Oh, c'est beau, c'est une belle réponse.
C'est beau. Où est-ce que ça t'a mené, tu dirais? Peut-être, ça peut être un point dans ta vie aujourd'hui.
Bien, au début, en fait, je pense que c'était de la pression plus que du plaisir, cette espèce de baigner là-dedans parce que, tu sais, tu vois plein d'artistes, tu te compares énormément, puis je pense que... Ben, quand t'es jeune, puis moi, je rêvais d'être la cœur de pirate quand j'avais 19 ans. Là, genre, je sors mon premier album à 18 ans, puis là, elle est donc ben jeune, elle, pour commencer à faire ça, puis tout. Puis finalement, ben, c'est pas arrivé, tu sais. Fait qu'au bout d'un moment, ben, tu finis par lâcher prise sur cette espèce de pression du petit génie-là, puis tu dis que tu vas faire de ton mieux. Puis en parallèle, ça a fait que j'ai eu plus de fun dans ce lâcher prise-là.
Pas se mettre de pression, ça
fait que je sais pas si je réponds bien à vos questions, mais en tout cas, c'est
vraiment
ça que ça
m'évoque.
Oh, mais mettons pas cette pression de répondre aussi.
Pas de pression ce soir.
Jeanne, depuis le début de l'émission, on baigne dans ton environnement musical. On y retourne un petit peu.
Ça me fait danser. Je veux pas vivre mes funérailles dans la mort des glaciers.
Quelle belle chanson. On le disait, je te le disais hors onde, là, c'est ma préférée. On le dit plus, Jeanne, tu parles résolument de nature, d'environnement, de ce qui t'entoure, en fait. On est curieux, comment est-ce que les changements climatiques t'affectent ou t'habitent?
C'est drôle que tu poses cette question-là, après cet extrait-là en particulier, parce que...
Mais c'est boulu!
mais je comprends, mais il y a une anecdote particulière par rapport à « Je veux pas vivre mes funérailles dans la mort des glaciers ». Infoman, émission de fin d'année, je me souviens plus quelle année, là, mais il était allé genre aux funérailles d'un glacier, littéralement, genre... Ils ont fait une plaque commémorative quelque part en Islande, je pense. Puis ça m'a tellement marqué que je me suis dit « Crime, faut que je mette ça dans une toune un moment donné, genre.
Oh, » wow.
C'est pour ça que tu l'as mis?
C'est pour ça que je l'ai mis dans toi.
Wow. Ouais, mon Dieu.
Mais quand tu le chantes, ça, c'est tellement poétique.
Mm-hmm. Est-ce que tu es éco-anxieuse?
Un peu, mais j'essaye d'être un peu dans le déni pareil pour comme survivre.
Je comprends, moi aussi.
mais oui, clairement. Puis tu sais, je pense que je veux pas d'enfant dans la vie. Je laisse là aussi la porte ouverte, comme la maîtrise. même combat. Mais comme à date, je veux pas d'enfant, puis ça fait partie des raisons qui motivent mon choix de voir comment la planète va, puis le monde en général.
Comment tu trouves qu'elle va, la planète?
Vraiment mal. C'est pas ben, ben le fun en ce moment. T'sais. Puis on parlait de crise des médias tantôt. En musique, on est un peu dans la même situation. Financièrement, tout le monde est dans le trou. C'est comme, oh, OK, comment... J'ai confiance, moi, que on dirait que je vis sur la pensée magique depuis toujours. Puis ça finit tout le temps par marcher. Fait, je me dis, bon, il y a des affaires qui vont changer, c'est sûr. Mais puis j'essaie de faire de mon mieux aussi pour faire des efforts dans ce sens-là. Mais c'est difficile aussi. Je veux dire, quand t'as pas d'argent, c'est dur de faire des moves écologiques. T'sais,
ça coûte cher d'essayer de moins consommer, à part prendre les transports en commun, pas avoir de voiture, tout ça.
Oui, c'est ça.
Les autres, ça peut être dispendieux.
Et encore, dépendamment où tu habites.
Oui, c'est ça aussi. Là.
C'est toute une réflexion.
Oui. En tout cas. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, genre, justement, je veux faire des allers-retours en Gaspésie souvent, le transport en commun pour se rendre en Gaspésie, et c'est vraiment la
Ouais. Ça va tellement cher aussi, en fait, l'autobus.
Oui, c'est horrible.
Gaspésie, c'est pas mieux.
Puis, un billet d'avion, c'est aussi cher que de se rendre en France, mais le billet d'avion, c'est pas plus écologique. Mais mettons.
Ah
c'est
oui, ça. Aussi cher que de se rendre en.
Mais c'est un problème au Canada, le prix des billets d'avion, juste pour se déplacer dans le Canada à cause des monopoles de compagnies.
Mais exact. C'est ça. Ce qui fait que ben, je me pose la question, je m'achète-tu un char? Là, je veux-tu un char dans ce moment-là? Ou ben, je vais me sentir mal? En tout cas.
allons dans tes mots, dans la littérature, parce que c'est ce que tu es un petit peu. C'est ce que tu étais ou es encore, une sûrement, littéraire. Oui, encore. Est-ce que tu connais l'expression faire corps?
Oui.
Oui. Faire corps, c'est un. On se demandait, est-ce que...
Qu'est-ce que ça veut dire, loup faire corps, pour les gens qui ne sont pas en littérature?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'attendais pas à cette question quand j'ai écrit la question, parce que je me suis dit, les gens savent ça, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, faire corps? C'est de dire déjà qu'on n'est pas dans son propre corps à la base, et donc qu'il faut habiter son propre corps. Je ne sais pas si c'est clair ou si je l'ai rendu encore plus flou.
Non, je pense que c'est clair.
C'est de dire que c'est de se construire, je pense. Okay. Je pense que c'est ça, faire corps. Est-ce que c'est une gang?
Mais ça sera ça pour ce soir, puis on verra plus tard.
Qu'est-ce que tu en penses, Jeanne?
Je suis bien d'accord avec ce concept-là, en tout cas.
Oui. Ouais. J'ai le goût de t'entendre. Est-ce que tes chansons, de la même manière, font nature?
Oh, wow! Toi, toi aussi, t'es poétique!
Camille a dit mic drop.
Mais je suis au bac en lit aussi.
C'est ça que j'allais dire. Ah, c'est ça. Et il y a le mais... En je marche, sais. Là.
Je vais mettre ça dans un travail final, comme ça, ouais.
Ben, ouais, ou bien, je pense que je fais corps dans chacune de mes chansons, comme de façon différente.
Oui.
À partir d'éléments de la nature qui m'entoure, genre. Il y a comme, tu sais, mettons, j'ai une image en tête, là. Je suis sur le bord du Cap à Tite-Vallée, puis je me laisse brasser par le vent, puis tout ce que j'entends, c'est comme des gros bruits de vagues, puis de vent, puis c'est comme, à la limite... C'est quasiment angoissant, là, parce que t'entends rien que ça, puis même si tu cries par-dessus, tu t'entends pas, tu sais. On dirait qu'il y a cette espèce de force des éléments-là qui finit par te rentrer dedans au point où ça fait partie de ta personnalité, puis qu'après ça, ben, t'as une dimension de plus pour dire les choses. Puis après ça, j'essaie de transposer ça dans mes tunes. Je fais pas du gros punk non plus, là, genre. Je fais pas du noise non plus pour transposer ça, mais on dirait que c'est ça qui est... C'est de là que je me nourris, en fait.
Mais cette expérience que tu viens de dire, là, le vent, c'est vraiment ça, je pense, aussi, faire corps avec la nature, en fait.
Oui, puis accepter ça.
Ouais.
Parce que, ben tu sais, je pense souvent à ma grand-mère, mettons, mes tantes qui ont vécu et qui vivent encore pour la plupart, toute leur vie en Gaspésie. Il y a 130 habitants dans le village. On dit beaucoup que c'est donc beau, là, les petits villages avec l'esprit de communauté puis tout, mais comme il y a beaucoup de moments où les gens sont tout seuls, en fait, là-dedans.
La solitude.
Puis qui n'ont pas le choix d'apprendre à vivre avec ben, les semaines où ils ventent non-stop, les gros événements dans la solitude. T'sais. Fait qu'ils se forgent à partir de ça. Fait que de les voir avoir vécu ça aussi, ça m'inspire.
Parlant aussi de solitude en région, on écoute un autre extrait, mais de cette fois-ci, la chanson « La vague ».
En tout point cousu sur la peau, la solitude m'a façonné et je marche dans ses sabots. Et quand arrive la vague, j'avale la vague. Et quand arrive la vague, j'avale la vague.
Forte et savante. Tu me disais au téléphone que la solitude, on peut la vivre de façon bénéfique, là, en avoir besoin, la chercher, mais ça peut aussi devenir maladif et malsain. Et donc, avec cet album, tu voulais explorer la panoplie de solitude qui existe. Moi, je me demandais, après avoir justement fait cet album, t'en es où avec la solitude en ce moment?
Dans un paradoxe constant, oui. Finalement. Ça m'a fait me rendre compte. En fait, je pense que dans chaque chanson, explore un peu le côté bon et mauvais. Là, c'est pas manichéen à ce point-là non plus, mais ça explore un peu les deux côtés de la chose dans chaque tune. Je vais jamais comme complètement d'un bord ou complètement de l'autre. Ouais. Ce qui me fait me rendre compte que finalement, c'est tout le temps un peu dans une espèce de zone grise qu'il faut naviguer là-dedans. En ce moment, ben, j'apprends encore à me connaître là-dedans, je pense. Puis je sais pas si je veux avoir fini un jour, mais tu sais, on apprend tout à mettre nos limites. Ils sont pas tout le temps pareils non plus. Puis des fois, ben c'est ça. Mettons, je suis dans une relation en ce moment, puis des fois, je me rends compte que j'ai besoin d'espace maudit. Fait que là, je me retourne chez nous, puis je suis bien, puis c'est le fun.
Tu t'en vas en Gaspésie.
Tu dis pas où est-ce que tu t'en vas.
C'est pour notre pratique.
Jeanne, Nathalie Petrovski, grande critique. On sait c'est qui, hein, vraiment, oui, Nathalie, bien. Qu'on ne présente plus. Elle a dit au micro de Pénélope qu'elle vous aimait tellement qu'elle s'est abonnée à un Spotify juste pour vous écouter.
La semaine dernière, elle a dit ça.
Elle a dit ça la semaine dernière.
Je sais, c'est complètement dingue.
Oui. C'est fou.
Elle peut être difficile, Nathalie Petrovski.
Oui, je sais.
Difficile, c'est un grand...
C'est un petit mot.
Qu'est-ce qui fait que c'est si bon, ton univers, Jeanne?
Je ne sais pas, mais en tout cas, la chronique de Nathalie a fait une grosse différence sur mes streams, effectivement.
Ah oui! Vraiment!
En vrai, oui, il y a eu comme un avant et après Nathalie Petrovski, c'est fou.
Ben, en tout cas, son homme, même à comme 76 ans, je ne sais pas quel âge elle a, elle pourrait pas régler son âge.
Voyons,
ça, c'est une raison pour qu'elle parle de toi à bande des capes.
Ah oui,
là. Tu veux pas.
Tu vas être cancel.
Elle a encore cet impact-là. C'est quand même impressionnant aussi de voir que malgré les années, on l'écoute encore, Nathalie, et on va aller écouter ce qu'elle dit qui est bon.
Ben oui, bref, c'est vrai.
C'est tout.
Ouais. Oui.
Et on la suit parce que t'es au show. Voilà, ben on le savait déjà, on t'aimait déjà avant que tu viennes.
Mais bon,
c'est
juste à
cause
bon
de Nathalie.
C'est ça. On ne te connaissait pas avant la semaine dernière. Non, vraiment.
On vous a vu chanter une chanson, arrêtez. Oui.
C'est ça, c'est parce qu'on est un petit peu fan. Mais oui, qu'est-ce qui fait que c'est si bon, selon toi?
Ça, c'est une bonne question.
Le temps de te vendre, genre.
Okay. Oh my God, ça, j'aime pas ça. C'est pour ça que je me suis entourée d'une équipe pour le faire à ma place maintenant.
Yes,
c'est bien. Non, mais. Je sais pas, j'essaie d'être le plus sincère possible dans ce que je fais.
Mm-hmm.
C'est pour ça que j'ai choisi de garder mon nom aussi, là, Jeanne Côté. Au début, je trouvais ça... Ben, je cherchais, je me demandais. J'avais un band avant qui s'appelait Premier Toit. C'est disponible.
Ah ouais.
C'est bon quand même aussi, ouais.
T'as dû être écouté?
Non, j'adore le nom,
ah,
excuse-moi.
Okay. Ouais, j'étais comme, voyons, ça se peut pas. On a genre 9 auditeurs
on
ensuite.
On est allé dans les archives.
Ouais, c'est ça. En tout cas, ça existe encore, si jamais.
OK.
Mes premières chansons. Mais c'est ça, je me suis demandé après si je gardais mon nom, parce que Jeanne Côté, c'est un peu banal. Des Jeanne, il y en a beaucoup. Des Côté, il y en a encore plus. Puis quand on tapait mon nom dans Google, on tombait beaucoup sur des avis de décès au début. Fait que c'est ça, mais j'étais comme, je peux pas me séparer de ce nom-là parce que c'est vraiment ça que je veux présenter au monde. C'est exactement qui, exactement qui je suis. Il y a quand même, c'est certainement une petite distance quand même, mais c'est ça. Fait que j'essaie d'être le plus sincère possible aussi quand j'écris. J'essaie de pas trop fleurir les affaires non plus. J'essaie d'aller direct au but, même si, tu sais, j'ai des petites tournures un peu poétiques. Je dessine des
mais
guillemets avec mes doigts.
Mais c'est sans fioriture.
C'est ce que j'aime écouter aussi dans la vie. Fait que c'est ce que j'essaie de faire.
Est-ce que la nature a des fioritures de toute façon?
Ouais.
C'est ce que je me dis.
Mais puis après, mes chansons, là, dans cet album-là, ils parlaient beaucoup de la nature parce que je pense que j'avais besoin d'extérioriser ça, mais le prochain, c'est pas nécessairement là qu'on s'en va non plus. On va peut-être changer de direction.
Tu travailles déjà sur un deuxième album?
Oui. Yeah.
Mais en plus, c'est ma prochaine question, Camille. Non,
tu nous as vu venir.
Mais non, c'est parfait. Mais dans le fond, je disais, tu rentres en enregistrement ton deuxième album bientôt.
Oui, puis on a travaillé là-dessus, genre, 7 semaines, justement.
Ah ouais?
Arrête-toi.
Fait qu'on a monté des tunes, puis on a jammé avec mon band, puis mon équipe de co-réalisateurs, actrices qui vont faire ça avec moi, puis c'est super excitant.
Ah oui, c'est qui est co-réaliste? Je sais pas si tu peux
la même équipe que pour le premier album, Émilie Proux, Arthur Bourdon-Durocher, puis il y a Zachary Boileau qui est là pour jouer de la guitare aussi en ce moment. C'est vraiment cool. Je suis full énervée de ça parce que, on pousse des concepts qu'on avait essayé dans le premier aussi. Puis il y a quelque chose de plus... Tu parlais de faire corps tantôt, mais il y a quelque chose de plus charnel dans le prochain.
Ah oui, OK. Puis c'est ça, qu'est-ce qui t'habite pour ce deuxième album-là à prévoir? Ou?
Je me posais déjà beaucoup de questions sur les relations. Oups.
Ouais,
je me posais beaucoup de questions sur les relations déjà dans le premier. Puis là, je pousse un peu plus ça dans le deuxième, je pense, relation amoureuse. Mais aussi, en fait, ce qui fait le passage d'un état à un autre, c'est quoi le déclencheur qui fait basculer les choses dans la vie, dans une relation amoureuse, familiale, amicale ou juste comme dans des choix qu'on
oui,
fait
des choix,
aussi.
Ouais, okay.
Parlant de relations, comment tu trouves l'écosystème amoureux, romantique, le hook-up culture, notre ère un peu compliquée dans laquelle on est? J'ai envie de t'entendre là-dessus.
Moi, je trouve ça le fun, honnêtement. Mais je veux juste comme... C'est comme si on rajoutait des nouvelles cases, mais
oui.
Pour moi, l'idée, c'est pas d'aller se foutre dans une case ou une autre, c'est plus d'avoir l'opportunité d'aller piger ce qui nous plaît pour vrai, en fait, dans chacune de ces cases-là. Relation ouverte, ça peut vouloir dire plein de choses pour plein de monde, mais justement, tu mets tes limites ensemble, puis là, ça peut devenir vraiment le fun, en fait.
C'est ça.
Puis on crée des nouveaux modèles, puis c'est sûr que ça vient avec beaucoup de défis, tu sais, mais j'ai l'impression qu'on peut apprendre à se connaître mieux là-dedans, nous-mêmes.
Ou même, ça pourrait être... on enlève les cases, puis même ça peut être un gros rectangle.
Ouais, c'est ça.
On est tout dedans.
Oh, le rêve.
Ouais, vraiment.
Ben, on voulait aussi, on en parlait rapidement en ondes avant, les Francouvertes reviennent cette année. C'est un peu le prétexte aussi pour lequel on t'invite. Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mouture cette année? Comment tu te sens, en fait?
C'est le fun. Je suis allée à date.
Ah oui, OK.
J'ai joué pour le lancement de la programmation. Fait que là, j'ai vu tous les participants. J'étais comme, oh, c'est excitant. Puis j'étais super émue, en fait, quand j'ai commencé mon set, parce que j'étais comme, oh, wow, ça a passé en un coup de vent, en fait, cette année. Quand même chargée là, depuis le début, parce que c'était exactement il y a un an que j'étais à la même place. T'sais. À la même place, en me disant pas... Je suis pas partie en faisant ce concours-là comme une gagnante. Là. Je m'étais essayée cette fois. J'avais aucun espoir de me ramasser à la fin. Puis c'était pas parce que j'étais désespérée, c'est plus parce que je voulais peut-être que ça donne un peu de visibilité à mon projet, puis c'était le minimum que... En fait, c'était le max auquel je m'attendais. Donc, c'est ça. J'arrive cette année, après tout ce qui s'est passé... je suis full reconnaissante envers le concours. Il y a des changements qui ont eu lieu aussi. J'en suis vraiment contente. Les gens n'étaient pas payés pour faire les Francouvertes. C'est le cas dans beaucoup de concours encore aujourd'hui. Là, comme tu payes tes musiciens toi-même, tu fais tes répètes. Ça coûte vraiment cher faire des concours, en fait. Puis il y a le Cabaret Festif qui offre un cachet. Puis Petite Vallée qui paye les shows, mais comme c'est plus vraiment un concours non plus aujourd'hui.
Ouais.
Mais la plupart des concours, sinon, on offre pas de cachet puis ça coûte cher à les faire.
Okay.
Fait que, puis là, cette année, ils ont changé ça au Francouvert. Fait que ça, je suis vraiment contente.
Donc, chaque artiste qui performe,
il y a un petit cachet. C'est symbolique, cachet. Mais reste que le symbole est important.
Oui, ça permet
comme vous disais, je me souviens plus ton nom.
Jessica.
Oui. Tantôt, on paye pas l'épicerie avec la passion.
Oui, non. C'est ça.
Ben, c'est ça, Camille.
Ce cachet-là te permet de payer tes musiciens, par exemple? Genre, c'est pour toutes les personnes qui présentent ou...
Oui, c'est ça. Mais c'est pas assez pour payer tes musiciens au complet, tout dépendant de. Parce qu'il y a du monde qui accepte de jouer pour gratuit aussi. Là, mais...
C'est ça. Si t'es à l'eau fantôme puis t'as 8 musiciens sur la scène, c'est...
C'est ça, ça devient autre chose.
Le fait que t'es pris à l'eau fantôme...
c'est le premier nom qui m'est revenu.
Oui, c'est vrai que
c'est ça,
beaucoup,
c'est le premier nom qui m'est... Je me suis dit... Ah, c'était il y a 2 ans, à l'eau fantôme. Ouais.
Mais est-ce que ça amortit un poil, parce que je sais pas c'est quoi la taille de ce cachet-là, est-ce que ça amortit un poil tous les efforts qu'on met dans un concours?
Un petit peu quand même.
OK. Au moins.
Puis c'est au moins, genre... On est conscient que tu fais des efforts pour être là, fait que voilà.
Mm-hmm.
On est conscient que tu nous offres de la qualité, là, je veux dire. Mm-hmm.
Ça fait quasiment, c'est ce jour pour jour que tu as gagné là, les Francouvertes, que tu as commencé les préliminaires dans 2 mois, ça va faire jour pour jour. Comment tu décrirais comme les derniers 365 jours qui ont passé ou comment tu...
Complètement fou.
Ouais.
Mais ça a fait débloquer exactement les affaires que je voulais, en fait. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Je me cherchais une équipe de booking parce que j'étais tannée de booker mes shows moi-même parce que t'es pas crédible quand t'es l'artiste. Quand t'es l'artiste elle-même qui fait ses démarches, c'est jamais aussi efficace que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Fait que là, j'ai une équipe qui fait ça pour moi maintenant, c'est vraiment cool. J'ai une très bonne amie à moi qui est devenue ma gérante. Bref, ça commence à...
C'est ton amie, Roxane!
On la salue,
parce que elle est très gentille. Oh. Oui.
Mais c'est ça, ça fait du bien. Il y a une équipe en quartier général en production de spectacles aussi. Des affaires qui développe aussi pas trop vite. Je voulais pas que ça fasse... je pense que j'aurais pas aimé ça, que ça fasse une grosse explosion.
T'es pas en show à Tokyo, genre.
Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est quand même passé plein de belles choses. J'ai fait une petite
tournée en France.
Exactement, en France, qui est super. C'est un bon step.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y avait de tout là-dedans. Là, une petite vitrine, des premières parties, des shows complets, tout ça en solo. Mais ça me permet de roder mes affaires aussi. Puis, j'adore ça, faire des shows. Il n'y a rien que j'aime plus que faire des shows. Fait que... Donnez-moi-en, j'en veux. c'est ça. Fait que c'est exactement les bonnes affaires qui se sont placées aux bons endroits. Fait que je suis vraiment contente. Je touche du bois pour que ça continue de même. Mm.
En terminant, Jeanne, quand le deuxième album va sortir, il va sortir quand d'ailleurs? Est-ce que tu sais?
Je ne sais pas exactement. On mise l'hiver 2025.
Oh, OK. Qu'est-ce qu'on prévoit pour toi cette année en 2024? Ça peut être autant personnellement que professionnellement aussi.
Mon doux. Je ne sais même pas ce que je veux pour moi.
Ben, du doux, peut-être.
Oui, ben, clairement. Je ne sais pas, de l'effervescence créative qui continue, en fait. Ah. Parce que même si là, j'ai écrit les tunes pour le deuxième album, on dirait que j'ai le goût de continuer. Je suis dans ce mood-là. Je veux avoir le temps de le faire. Fait qu'il y a du temps.
Du temps. Mm-hmm.
Puis, de l'énergie
Dieu sait qu'on
créative.
En manque. Oui, Dieu sait qu'on en manque du temps.
Ouais.
Merci beaucoup, Jeanne,
merci
pour
vous
ça. Mais là, c'est pas terminé. On te laisse te préparer rapidement pour une petite performance.
Oui, en attendant, Jeanne, ben là, juste à la maison, Jeanne sera en spectacle le 22 mars à Montréal avec d'ailleurs notre ami Émile Bourgault, qu'on va recevoir là, un peu plus tard pendant la saison, et aussi l'artiste autochtone Canen. Puis le 28 mars, ce sera à la Valtrie. Bref, on va mettre la billetterie de Jeanne sur nos réseaux sociaux dès demain.
On fait tout de suite notre mot de la fin. On tient à remercier nos fabuleux collaborateurs, Simon Veilleux, Camille Sébastien et Jessica Saint-Germain.
Merci, gang.
Merci.
À la mise en onde, notre tendre Clémence Langlois, toujours à l'affût. Et on remercie notre ami Jacob Desjardins, comme a dit Catherine, qu'on a rencontré au Saint-Germain. Mais oui, c'est vrai, c'est super. C'est celui qui a composé notre chanson thème que vous entendrez plus tard.
Merci à Laurence Hébert et Marie Vinette pour les réseaux sociaux. Les belles vidéos que vous voyez dans votre feed Instagram, c'est elles qui les font et elles travaillent très fort. Retrouvez-nous la semaine prochaine dès 19h. On reçoit Catherine Morancy, professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique à Montréal.
Wow, bravo, tu l'as dit.
Titulaire de la chaire mobilité pour nous parler des transports en commun et des VUS au Québec.
Oui, et je ne vous fais plus attendre. Jeanne est prête. Elle vous présente sa chanson en piano-voix, Suite pour personne.
La chambre est déshabillée, je suis une île déserte au milieu du lit. Le centre en est caché. Parfois il en sort un oiseau. C'est un matin sans nœud et sans œillères. Les rimes sont involontaires, les cassures accidentelles. Je bois du café pour deux en attendant la suite. C'est peut-être un début. Écouter de loin sans vouloir trouver. À qui la faute. Je lis pas les nouvelles aujourd'hui. J'ai déjà froid. Je bois du café pour deux en attendant la suite. Pour personne.
plan de côté. Oh, c'était Sud pour personne de l'album Sud pour personne. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup.
On vous souhaite une belle fin de semaine. On espère que vous allez écouter Jeanne, qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes. On vous souhaite vraiment une belle fin de semaine à tous nos auditeurs, auditrices, Catherine et moi. On vous dit à la semaine prochaine au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup, dans le Grand Montréal.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Le Cowboy urbain.
Cheval de
tous les jeudis de 16 à 18 heures.
Les heures de pointe, tu trouves ça normal?
Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country.
On arrange toute la semaine.
Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Jeudi de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
CIBL.